Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Quand elle décide de devenir mère, Laetitia passe par la case PMA car elle a des soucis d'infertilité. Un protocole assez court, une grossesse qui se passe plutôt bien, même si l'accouchement arrive plus tôt que prévu. La vie à trois démarre avec leur petit garçon. Peu de temps après, voyant que les taux de Laetitia diminuent, le couple décide d'agrandir la famille et c'est le choc lorsqu'ils découvrent à l'échographie qu'il n'y a pas un, ni deux, mais trois bébés qui se sont logés dans le ventre de Laetitia. Après des questionnements, des peurs et quelques rires nerveux, ils décident de continuer cette grossesse sans faire de réduction embryonnaire. Mais alors que Laetitia est enceinte de 2 mois, alors qu'elle démarre tout juste sa grossesse de triplé, son mari Guillaume décède brutalement suite à un accident du travail. Alors comment poursuivre quand le conte de fées s'arrête en pleine grossesse? Comment accepter la mort de son cher étant quand on porte en même temps 3 vies? Autant de questions que j'ai posées à Laetitia dans cet épisode. Elle nous raconte ses débuts dans la maternité avec son fils, le jour qui a bouleversé sa vie de famille, sa grossesse multiple en solo, l'accouchement de ses filles chéries, et comment elle gère seule 4 enfants au quotidien. C'est doux, c'est plein d'optimisme, et c'est une merveilleuse femme bien décidée à être heureuse que vous allez entendre. Bonne écoute! Bonjour Laetitia.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Avec plaisir.
Alors tu es la maman de 4 enfants. Quel âge ils ont?
Alors il y a Nolan qui a 3 ans et demi, bientôt 4, et les triplés, donc Lina, Amy et Noelia qui ont 16 mois.
Des triplettes.
Donc. Des triplettes.
Ouais. On va revenir avant que tu deviennes mère. Toi, est-ce que tu as toujours rêvé ou souhaité devenir maman plus tard?
Alors ça a toujours été vraiment une volonté pour moi d'être maman.
Ouais.
On va dire que depuis mon adolescence, en fait, je rêvais d'être mère. Après, pas forcément d'une famille nombreuse.
Ouais.
J'avais peur de ce côté, justement, bah, tu n'as plus trop de vie. Donc voilà, ce n'était pas mon objectif principal, mais oui, d'être maman, en tout cas, ça l'était.
Et alors, à quel moment le sujet est arrivé au sein de ton couple?
Alors avec Guillaume, ça a été assez rapide en fait, puisqu'on s'est rencontrés, on avait tous les deux 31 ans.
D'accord.
Donc on a mis du temps à se rencontrer et du coup du temps à faire un enfant, puisqu'il fallait trouver le prince charmant.
Ouais.
Donc quand on s'est rencontrés, le sujet est très vite arrivé, puisque du coup j'étais avec mon ex, du coup déjà suivi pour des raisons d'infertilité.
D'accord.
Donc en fait, ça s'est très vite présenté parce que on en voulait tous les deux, mais mine de rien, les années passaient, donc... Au bout de quelques mois de relation, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour un parcours PMA.
D'accord, directement, vous n'avez pas tenté avant de le faire sans aide?
En fait, le problème venait de moi.
Ouais.
Donc, en changeant de partenaire, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, lui, du coup, a fait des examens pour qu'on soit raccord tous les deux. Mais on savait qu'on allait en avoir besoin, quoi.
Ouais. Et du coup, tu disais qu'avec ton ex, tu avais déjà commencé le parcours, donc ça n'avait pas fonctionné.
Alors heureusement, parce que ce n'était pas une bonne personne. On ne s'est pas lancé dans le truc, mais je savais que du coup, j'avais des problèmes pour tomber enceinte naturellement, quoi.
Et alors là, avec Guillaume, combien de temps ça a pris pour ce premier parcours?
Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que... Donc moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. On le sait, en fait, il y a plein de cas en fait, différents. Il peut y avoir une surpilosité, beaucoup d'acné, etc. Donc moi, j'ai eu la chance d'être épargnée par tout ça. Et c'est vrai qu'avec Guillaume, en 6 mois de temps, j'ai réussi à tomber enceinte. Donc ça a été assez rapide au final, quand on a vraiment lancé le protocole, les piqûres. Mais en ces 6 mois de temps, j'ai tout de suite en fait pensé aux femmes qui avaient ce combat-là et qui l'ont vécu pendant et qui le vivent encore aujourd'hui, mais pendant des dizaines d'années. Mmh. Et je trouve que c'est épuisant parce que chaque test de grossesse après une insémination ou une FIV qui revient négatif, c'est vécu comme un échec. Donc ouais. C'est moralement et pour le couple, c'est tellement douloureux que je n'imagine même pas celles qui le vivent pendant de nombreuses années, quoi.
Et toi, est-ce qu'il y a eu plusieurs tentatives ou ça a été...
En fait, avant Nolan, on a fait à peu près 5-6 inséminations. C'est ça, à peu près 6 mois, en fait, on a mis pour avoir Nolan. Mais heureusement, ça a marché assez rapidement. Ouais.
Alors, comment as-tu accueilli cette belle nouvelle et comment s'est passée ta grossesse?
Eh bien, on était fous de joie. Il n'y a pas le côté miraculeux d'avoir une grossesse spontanée. Donc voilà, on s'y attendait, on savait quand étaient les prises de sang, quand était l'écho, etc. Mais on était fous de joie. Après, la grossesse s'est bien passée. Bon, moi, le gynéco en fait m'avait dit que je pouvais continuer une vie normale. Donc je montais beaucoup à cheval. Sauf que du coup, je n'ai pas diminué. Et quand en fait il l'a su à 4 mois de grossesse, il m'a dit mais pas du tout en fait, vous venez de faire un parcours là, vous arrêtez de monter. Et ouais. Du coup Guillaume a commencé à flipper et donc j'ai arrêté de monter à peu près à 4 mois et demi de grossesse. Et j'ai accouché de Nolan qui est également un prématuré parce que du coup j'ai accouché à 7 mois et demi parce que j'ai fait une prééclampsie.
Ah d'accord.
Voilà, une très belle grossesse hein, pour le coup, un suivi... quand on verra pour les filles, mais un suivi très simple, sauf qu'en fait, il est arrivé un petit peu avant, il avait un retard de croissance. D'accord. Et monsieur ne faisait que 1,810 kg. C'était petite crevette.
Ouais, premier accouchement, donc comment s'est passé cet accouchement?
Accouchement en stress, parce que pas prévu du tout. On n'avait pas grand-chose de prêt. À l'époque, on était en appartement, en location, on n'était pas prêt en fait. C'était pas pour tout de suite. Et Guillaume en fait était en intervention, je m'en souviendrai toujours, était en intervention donc pour il avait une société de destruction de nuisibles. Donc d'accord. Il était sur ses toits avec ses nids de guêpes et de frelons asiatiques. Et en fait, c'est sa sœur qui lui a dit non mais là tu dois venir maintenant. Mais non, mais on a encore le temps, je termine ce que je fais. Non, elle est en train d'accoucher là en fait. Parce que du coup, je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont fait les examens, j'étais déjà dilatée à 5, donc ils ont juste eu le temps de me poser la péridurale quelques heures après, il était là, ça a été super rapide.
Et tu savais que tu avais une prééclampsie avant
En fait, j'ai contracté, j'avais des contractions toute la nuit, mais c'était supportable. Un peu comme, comme j'ai fait des pyélonéphrites avant d'être enceinte, ça faisait un peu ces douleurs-là, quoi, dans les reins et tout. Ouais. Donc je me suis dit, mince, je suis en train de faire une infection urinaire, c'est bizarre. Et le matin, j'avais un cours d'accouchement. Et du coup, quand je vais voir la sage-femme, je lui dis « Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir des contractions. » Elle me fait un monito, elle me dit « Oui, c'est quand même assez régulier, donc allez à l'hôpital. » Et là, du coup, j'avais à peu près 20 minutes de route entre la sage-femme et l'hôpital où je devais accoucher. Et là, du coup, j'ai contracté sur tout le chemin et je me suis dit « En fait, ça pue mon histoire. » Et quand ils ont pris l'attention, ils ont vu que du coup, j'étais en train de faire une prééclampsie.
D'accord, ok. Et donc là, Guillaume... descend de toi et te rejoint.
Guillaume finit par arriver. Du coup, sa sœur s'en va parce que sa sœur est arrivée avant lui. Mais après, on a eu très peur. L'accouchement en soi n'était pas le plus beau jour de ma vie parce que du coup, en fait, il y a eu des termes qui ont été employés quand on m'a dit que du coup, j'étais en train de faire une prééclampsie. On m'a dit que dans tous les cas, il allait falloir l'extraire. Enfin, c'est des termes où quand on est sur le point d'accoucher, on se dit mais il est vivant, il est mort. Enfin... le côté on extrait le bébé, j'ai eu un peu peur. Et puis après on m'a dit on va appeler le pédiatre parce que j'arrivais pas à le sortir. Et puis du coup je me suis dit attends, je veux pas qu'il ait les forceps et tout ça, donc je me concentre et j'y vais. Heureusement ça a marché.
Par voix basse,
Oui, parce que du coup je m'étais mise en travail toute seule. Donc j'ai réussi à le sortir sans l'aide du médecin. Mais en fait quand il est sorti, il était tout bleu et on l'a pas vu pendant quelques minutes. Ouais. Alors, c'est vrai que pour Guillaume et moi, enfin, on a pleuré tous les deux parce qu'on s'est dit, mais on ne savait pas dans quel état il était, en fait. Ouais. Parce qu'on a entendu tout le monde courir une fois que les portes étaient fermées. Donc, en fait, ça a peut-être duré quelques minutes, mais nous, on a l'impression que ça a duré une éternité, quoi. Ouais. Et puis, on le voit arriver dans sa couveuse. Et puis là, on se dit, tout va bien. C'est un petit bébé, mais tout va bien.
Ouais. Il n'a pas été en néonat ou en...
Alors, du coup, l'hôpital où j'accouche, il y a une unité kangourou. Pour les prématurés qui n'ont pas besoin d'oxygène en fait. Donc comme lui n'en avait pas besoin, il a été sondé pour l'alimentation, il a appris à manger et tout, donc on est resté 2 semaines hospitalisés. Mais du coup, comme c'est une unité spéciale pour les parents, Guillaume et moi, on a vécu 2 semaines à l'hôpital. Ouais. Donc lui, il partait la journée faire ses inters et le soir, il était à l'hôpital avec nous. Et franchement, j'ai eu que des équipes mais tellement bienveillantes que j'ai vécu mon hospitalisation comme... Enfin voilà, c'était parfait. Limite, j'avais peur de rentrer à l'appart après, quoi.
Ah oui, t'as tout appris là-bas, finalement.
Ouais, j'ai tout appris là-bas. Et puis on prend au final nos repères avec la petite salle de bain, le machin. Ouais. Enfin, on a toute notre organisation là-bas. Et du coup, c'était stressant de rentrer à l'appartement dans un environnement qui devenait inconnu avec un bébé, quoi.
Et tu l'as allaité ?
Nolan, je l'ai allaité 6 mois et demi, à peu près. À la reprise du travail, ça a commencé à être compliqué parce que je tirais mon lait en plus. Parce que du coup, j'ai fait des dons au lactarium. Donc, je tirais beaucoup mon lait et en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup d'engorgement, donc j'ai dû diminuer un petit peu. Et Nolan, en fait, a eu énormément de difficultés à s'alimenter quand il a commencé la crèche. Donc, il ne mangeait quasiment pas de la journée. Mmh. Elles étaient avec les pipettes de Doliprane, les cuillères, et il refaisait tout. Donc, du coup, il passait toute la soirée et toute la nuit accroché à moi pour rattraper, en fait, ce qu'il n'avait pas mangé. Et là, moi, j'assumais plus le travail, quoi.
Ouais.
Donc, je l'ai sevré progressivement... entre guillemets, à cause du travail, quoi.
Ouais. On t'a expliqué, justement, ce refus de s'alimenter sans toi ?
Ça arrive avec les bébés qui sont allaités longtemps, malheureusement. Après, j'aurais aimé faire un sevrage un peu plus, en douceur, sur le temps, etc. Mais là, après, ma pédiatre m'a conseillé d'arrêter pour que lui puisse avoir un rythme normal. Je pense qu'après, si je m'étais peut-être renseignée différemment, on aurait peut-être pu trouver... d'autres solutions, mais là, moi, j'étais vraiment fatiguée et avec le boulot, je n'arrivais pas à gérer, quoi.
Tu m'étonnes. Et alors, comment se sont passés tes premiers pas dans la vie de maman ? Est-ce que tu as tout de suite été à l'aise ?
Alors, pour moi, ça a été... Enfin, je vois, j'ai des amis qui ont eu des débuts difficiles parce qu'au final, on nous dit qu'on doit aimer l'être qu'on nous tend, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Mmh. Mais pour moi, ça a été très facile tout de suite, quoi. Ouais. Je l'attendais telle. Enfin, mais en fait, c'est même pas justifié pour les personnes qui ne ressentent pas ça, mais c'est vrai que je l'attendais tellement que mon rôle de mère et cet instinct s'est créé tout de suite, quoi.
Et donc, finalement, peu de temps après, vous décidez de repartir en parcours de PMA ?
Donc, quand Nolan est arrivé, on a eu la maison, on est arrivé dans la maison 3-4 mois après, un truc comme ça. Et en fait, au un an et demi de Nolan, on s'est dit, bon, ce serait pas mal qu'on reprenne. En fait, j'ai eu rendez-vous chez le gynéco qui m'a refait un bilan.
D'accord.
Et qui m'a dit que ma prise de sang n'était pas top, que mes taux diminuaient et que... si on en voulait un deuxième, ça pouvait être un peu plus difficile et qu'il fallait pas traîner, quoi.
Okay.
Donc comme nous, on en voulait deux, on était dans la maison, on était installés, on s'est dit bon bah entre guillemets, si on enchaîne, c'est pas grave.
Mmh.
Mais c'est vrai que ouais, on a très vite remis du coup le protocole en place et en fait il y a eu le Covid, donc on avait commencé un petit peu avant le Covid. Après il y a eu le confinement qui a suspendu du coup tous les examens, les inséminations et tout. Et sorti de Covid, on a refait un mois de traitement et là, ça a marché tout de suite.
Ça a même très bien marché.
Ça a très bien marché.
Alors, comment tu as découvert que c'était des triplés que tu attendais ?
Alors, 10 jours après l'insémination, prise de sang, bon, bah, tout est OK, début de grossesse, je vais faire une écho donc pelvienne qui me dit que bah, oui, je suis bien enceinte et je dois y retourner 2 semaines après. Et là, donc cette écho, j'étais toute seule, la première, et du coup, là, donc celle de 2 semaines après, j'y vais avec Guillaume. Et là, en fait, on voit, mais clairement, tout de suite, 3 poches. Et en fait, moi, je dis, mais c'est pas possible, parce que tout de suite, en fait, j'ai compris, je me suis dit, putain, il y a un truc, puis je voyais mon gynéco qui était pas très bien.
Et t'avais fait une prise de sang, non, avant ? Il n'y avait pas des taux ?
Non, j'avais pas fait attention, quoi. J'avais pas du tout fait attention, j'ai même pas regardé si vraiment on le voyait, ça. Et en fait, quand on a vu les 3 poches, donc... tout de suite, en fait, c'est vraiment... On rigole nerveusement et on se dit, mais c'est pas possible. Je rigole, je dis, mais non, c'est pas possible. Et Guillaume, il dit, mais non, mais pas du tout. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y en a autant ? Mais c'est pas possible. Donc lui, il était choqué. Et du coup, tout de suite, en fait, le gynéco nous dit, bon, on va parler de ce qu'il est possible de faire ou pas, quoi.
Toi, t'étais dans quel état? Tu rigolais? T'étais
là, c'est vraiment en état de choc, quoi.
Ouais.
Guillaume, c'est un peu le côté un peu mutisme où du coup, il s'est assis en mode « Putain, comment on va faire ?» C'est pas possible. Et moi, voilà, c'était plus le côté « Waouh !» et non, quoi. Donc, ouais, un peu flippé.
Ouais, tu m'étonnes. Donc là, vous repartez de là, du rendez-vous. Qu'est-ce que vous vous dites?
Alors,
tous les deux?
Alors, on repart du rendez-vous en ayant connaissance, du coup, de la possibilité de faire une réduction embryonnaire, donc pour en avoir plus que deux.
Ouais.
Mais voilà, qui dit réduction embryonnaire dit également la possibilité de perdre les deux autres. Enfin voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Guillaume a tout de suite été plus sur le côté matériel.
Ouais.
La voiture, la maison, ça a tout de suite été ça. Le fait qu'il bossait énormément, puisque du coup, il était éducateur à la Fondation d'Auteuil. Donc en fait, il s'occupait des jeunes dans des internats. Donc soit il était du matin, soit il était du soir, donc il rentrait vers 23h et quelques. Donc quand c'est comme ça, bah, je dois gérer, pour le coup, Nolan et les futurs enfants à venir toute seule.
Ouais.
Il était également pompier volontaire, donc quand il faisait des gardes de 24h, bah, il n'était pas là.
Ouais.
Et du coup, il avait sa société pour les destructions nuisibles, donc il bossait énormément.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, lui, ça a été ça, c'est « mais comment tu vas faire ?» Le cheval, ça veut dire « c'est fini ». Et en fait, comment tu vas gérer toute seule quatre enfants, quoi. Ça a été, voilà, c'était plus pour moi le stress de se dire comment tu vas faire. Donc, il nous a fallu quelques soirées de discussion pour... voilà, moi, en fait, très rapidement, je me suis dit que je ne pourrais pas les retirer. Si la nature décidait de, bah, de les faire partir, ce serait différent. Ou s'il y avait, pour des raisons médicales. Mais hormis ça, je savais que je n'arriverais pas à en retirer une ou à les avorter, quoi.
Ouais. Donc, il y a un moment où vous décidez, tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde.
Alors, malheureusement, on décide de les garder. En fait, on décide de les garder, mais on attend le rendez-vous de fin août pour faire, du coup, la prise de sang, donc la DPNI, avec les recherches de malformations, etc. Mmh. Donc, on est décidé dans l'idée de les garder. Mmh. Mais voilà, on attend cette prise de sang pour vraiment acter notre décision, quoi.
Mmh.
Et malheureusement, du coup, Guillaume décède. Et cette décision, je dois la prendre toute seule. Donc là, tout est remis en question, forcément, puisque je passe d'une situation où on était deux pour quatre enfants, même s'il allait beaucoup travailler, à moi toute seule avec les quatre H24.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui est arrivé à Guillaume pendant... Donc là, t'es à quoi, toi? À deux mois de grossesse?
Je suis à deux mois de grossesse,
ouais.
Pile le jour de son décès, donc le 10 août, je suis pile à deux mois de grossesse. En fait, Guillaume a fait une chute deux jours auparavant, donc le 8. Une chute lors d'une intervention, donc il était en toiture et en fait il est tombé et malheureusement il est tombé sur la tête, donc sa tête s'est mise en coma tout de suite.
Ouais.
Donc il a subi deux interventions et puis au bout des deux jours d'hospitalisation, enfin la veille en fait, on nous a dit que malheureusement il n'y avait pas d'espoir possible. Sauf que là, comme on était mariés, en fait, je dois, moi, en tant que femme, donner mon accord pour débrancher mon mari.
Ah, oui.
Donc, c'est quelque chose que j'ai fait accompagnée de mes belles-sœurs et de ma belle-mère, parce que pour moi, voilà, c'était leur fils et leur frère depuis... Enfin, voilà, donc moi, je le connaissais depuis 4 ans, mais voilà, c'était pour moi une décision à prendre ensemble. Et du coup, le 10 août, on a dû... le laisser partir parce qu'il n'y avait pas de possibilité. En fait, il n'y avait pas de retour possible à tout ce qui s'était passé.
Et comment tu vis, toi, parce que là, tu portes la vie, tu portes trois vies, tu perds ton chéri au même moment, la vie, la mort
s'entremêlent complètement. S'entremêle. En fait, forcément, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été très triste, mais j'ai la chance en fait d'avoir Nolan à la maison qui m'attend et d'avoir un petit garçon de 2 ans qui est plein de vie.
Ouais.
Et en fait, grâce à lui, grâce à la grossesse, qui du coup va bien, je me dis qu'en fait, lui, il se réveille, il mange, il joue, il pleure, il sourit, et que ça, c'est la vie, et je me raccroche complètement à ça et aux enfants que je porte.
Mm. Et au niveau du schéma familial, donc déjà à deux, comme tu disais, trois bébés qui arrivent.
En fait, c'est vrai que je me mets tout de suite en fait sur Nolan en me disant que voilà, il incarne la vie et que je porte la vie, que bah c'est les derniers les petits bouts de Guillaume qui me restent quoi. Donc ouais. Donc ouais, je me focalise vraiment dessus pour avancer, même si oui, il y a eu voilà énormément de chagrin, de peine, et en fait je me raccroche au positif parce que je sais que c'est ce qu'il me faut pour avancer quoi.
Ouais. Et tu te dis quoi par rapport au triplé qui arrive
Alors par rapport au triplé, en fait, je reste un petit peu dans le même état d'esprit qu'on était avec Guillaume. C'est qu'en fait, moi, je me mets tout de suite, voilà, j'attends le rendez-vous de fin août pour voir si les trois vont bien. Parce que mine de rien, je m'alimente très mal à ce moment-là. J'ai énormément de nausées, je perds du poids. Ouais. Donc je me dis, j'ai pas du tout de ventre. Donc je me dis, ça se trouve, ça va pas du tout en fait. Mmh. Donc, je me focalise sur le rendez-vous à l'hôpital. Est-ce que la prise de sang va révéler quelque chose ou pas? Mais au fond de moi, je veux les trois et encore plus maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, de faire une réduction embryonnaire, j'ai le risque de perdre les deux autres. Et je me dis, déjà, en retirer une, je pense que toute ma vie, je m'en serais voulu. Et voilà, au risque de perdre les deux autres, j'imagine même pas le choc que ça pourrait être pour moi.
Ouais. Et alors, comment ça se passe le jour des résultats de la prise de sang et tout ça?
Eh bien, du coup, ma prise en charge à l'hôpital est vraiment parfaite, en fait. Mon histoire touche aussi à la sympathie et tout le monde prend énormément soin de moi. Donc, je suis très bien, très bien aidée, très bien écoutée. Et tout de suite, en fait, les échos montrent que tout va bien, la prise de sang, tout va bien.
Ouais.
Et voilà, j'ai énormément de questions quant au fait de réussir à m'en sortir avec trois bébés, plus Nolan qui a que 2 ans, du coup 2 ans et demi à la naissance des filles. Mais j'ai énormément de questions. Et à la limite, c'est plus l'avenir qui me fait peur sur le côté financier d'élever seule 4 enfants, quoi. C'est vraiment le gros questionnement pour les aider dans la vie. Je me projette beaucoup plus loin, mais le jour où ils passeront leur permis, s'ils veulent faire des études supérieures, si je peux les aider ou pas. Ouais. Après, je sais très bien que dans 20 ans, ma vie sera certainement différente que celle d'aujourd'hui. Mmh. Mais j'ai énormément de questionnements sur le fait de réussir à gérer 4 enfants toute seule, bien sûr.
Donc là, t'es à presque 3 mois de grossesse, on me dit que tout va bien pour les trois. Mmh. Comment tu poursuis cette grossesse? Donc maintenant tu es veuve, les plans ont été complètement chamboulés.
En fait, le schéma est parfaitement incomplet. En fait, c'est que là je me retrouve toute seule, je perds l'homme que j'aime et celui avec qui je voulais faire notre famille. Mmh. Et forcément, tout est chamboulé. Maintenant, très vite, je me raccroche au vivant, donc à Nolan, à cette grossesse que du coup, je décide en fait de mener à bien. Mmh. Et puis le soutien sans faille de ma mère, qui vit pendant les premiers mois de ma grossesse. En fait, elle faisait énormément de retours entre vivre avec moi et aller chez son copain. Pendant quelques semaines, en fait, elle faisait énormément d'aller-retour pour du coup me soulager. Et puis, il y avait aussi en même temps le Covid, les confinements. Donc, ça a été une période qui était compliquée parce qu'on ne savait pas non plus trop où on allait avec le Covid. Et elle voulait être là pour moi, mais en même temps, elle avait aussi besoin de souffler. Et moi, j'avais aussi besoin de souffler parce que de vivre avec sa maman, c'est pas... Même si elle le faisait avec son grand cœur, c'était pas non plus évident tous les jours. C'est un couple, mais avec sa mère, donc c'est pas évident. Je me suis pas ennuyée comme ça.
Ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que tu en as parlé à ton fils de ce qui est arrivé à son papa?
Alors, quand Guillaume a eu son accident, j'étais en Bretagne chez ma mère à ce moment-là.
D'accord.
J'étais donc pas. Ça faisait 10 jours à peu près. On devait rentrer 2-3 jours après, ou le lendemain même, je sais plus. Et en fait, quand la sœur de Guillaume m'a appelée pour me dire qu'il avait eu un accident, elles ont un peu flouté le fait que c'était très grave. Bon, elles m'ont dit c'était très très grave, mais je savais pas qu'il était dans le coma, tout ça, etc. parce que du coup, j'étais à 4 heures de route et qu'elle ne voulait pas non plus que je fasse n'importe quoi, aussi bien pour Nolan que pour moi. Enfin voilà, c'était vraiment par sécurité et pour me protéger. Donc j'apprends son accident, il est aux alentours des 19 heures. On est chez des amis de ma mère et en fait, direct, on remballe tout. On va du coup chez ma mère. J'essaie de faire comme si de rien n'était aux yeux de Nolan, c'est-à-dire que il savait qu'on partait quelques jours après ou le lendemain même. Et du coup, je lui dis qu'on va rentrer à la maison. Je lui fais sa petite douche, je le mets en pyjama. Il mange, je me souviens, des coquillettes et du jambon, le truc très rapide et qui passe bien. Et voilà, 2 heures après, à 21h, en fait, on est tous dans la voiture et on va sur Paris. Donc à ce moment-là, en fait, je suis en voiture. Donc moi, je conduis avec ma mère et Nolan est à l'arrière. Et le copain de ma mère et un ami à lui nous suivent en voiture.
D'accord.
De cette façon, en fait, quand on arrive sur la dernière aire de repos, en fait, je monte avec l'ami de ma mère. Et du coup, ma mère fait le reste du trajet avec du coup Nolan et l'autre ami en question. Pour qu'en fait, moi, je puisse aller directement à l'hôpital sans passer par la maison. Mmh. Et puis, eux gèrent Nolan. Donc, je me rends à l'hôpital et puis tout s'enchaîne. Moi, le dimanche, quand je rentre à la maison, avant de savoir qu'il n'y avait pas de suite pour Guillaume, quand je rentre à la maison, j'en parle avec Nolan. Je lui dis que papa a eu un très gros bobo. En fait, je lui dis les choses tout de suite avec énormément de sincérité, mais avec des mots qu'il peut comprendre. Oui, donc je lui dis que papa a eu un très grave accident, qu'il a un gros bobo à la tête, que les médecins font tout pour le soigner, mais que c'est très grave, qu'il est tombé d'une échelle. Voilà, je lui explique un petit peu les choses. Et avant de repartir à l'hôpital, je lui dis « Est-ce que tu veux que je donne un doudou à papa pour, pour qu'il comprenne que je retourne à ses côtés et que je peux emmener un bout de lui avec moi ?» Donc j'emmène un doudou à Guillaume. Mais c'est vrai que du coup, c'est 2 jours où je m'occupe très très peu de Nolan. Du coup, je le laisse complètement à ma mère parce qu'en fait, je suis pas du tout en état de m'en occuper. C'est vraiment que ce moment-là avec lui dont je me souviens. Et en fait, le 10, quand Guillaume décède, je rentre à la maison en fin de journée. Et là, j'en parle pas à Nolan. J'en parle que le lendemain, puisqu'en fait, j'avais peur aussi de lui annoncer juste avant d'aller faire dodo. Juste avant qu'il fasse sa nuit, donc j'avais pas envie de lui en parler, parce que si je dis pas de bêtises, on est rentré pour son heure du repas, il devait être 18h30, quelque chose comme ça. Donc je voulais pas lui en parler, et je lui en ai parlé le lendemain. Du coup, je lui ai dit que papa était mort, qu'il était au ciel, etc. Et pendant la semaine, en fait, entre son décès et son enterrement, j'ai eu la chance de trouver... J'ai une amie, en fait, qui m'a donné les coordonnées de la pédopsie qui suit sa fille pour toute autre chose. Et cette personne-là a accepté, en fait, malgré les... Parce que c'était la semaine du 15 août. Tout est fermé et c'est une galère pas possible. Et elle a accepté, en fait, d'échanger avec moi sur ce que je devais lui dire, lui expliquer, etc. Et elle m'a dit que voilà, il faut lui dire il est mort, il faut pas tourner autour du pot, parce qu'il faut que tout de suite en fait il soit conscient des choses. C'est pas papa il est parti, il est pas revenu, c'est pas il est parti pour une autre femme, c'est pas tout ça. Donc voilà, tout de suite en fait ça a été un rituel, je lui ai dit toujours les mêmes choses. Papa il a eu un très gros bobo à la tête, il est mort. Au début je lui disais qu'il était au ciel, et après en fait au bout de quelques semaines... Il a commencé à avoir une espèce de lubie sur les avions. Et là, je me suis dit, c'est pas le bon terme. Ouais. Donc, du coup, je lui ai expliqué que ben non, il était au paradis. C'est là où les gens vont quand les gens... En fait, je lui dis toujours que c'est là où les gens gentils vont quand ils sont morts. Mais voilà, après, je sais que c'est des mots qui peuvent heurter. Mais en même temps, il avait besoin de l'entendre. Et aujourd'hui, il est très conscient des choses.
Ouais. Et toi, est-ce que tu as eu un suivi psychologique pendant le reste de ta grossesse ?
Alors, ça m'a été un peu imposé par l'hôpital. Donc, j'ai tout de suite été pris en charge par une psychologue, une psychologue à l'hôpital, qui m'a suivie. Après, j'en ai pas spécialement ressenti le besoin, dans le sens où, en fait, mes étapes de deuil, je les avais vécues avec mon beau-père, donc le mari de ma maman, il y a 10 ans auparavant. Donc, c'est horrible, mais c'est malheureusement quelque chose que je connaissais. Après, elle m'a beaucoup aidée dans mon cheminement par rapport au fait de garder ou non les triplés, par exemple. Ouais, j'ai eu besoin, en fait, d'en parler à quelqu'un de neutre. parce que je trouve ça très dur, en fait, la décision... Enfin, c'est moi qui avais le dernier mot, et en fait, c'était très compliqué, et puis du coup, j'ai eu un peu de pression où ça me mettait encore plus mal, parce que j'étais complètement perdue.
Ouais. Cette suite de grossesse, comment elle s'est passée ?
Eh bien, pour le coup, j'ai eu une très belle grossesse de triplé. Donc, c'est rigolo, parce qu'à partir du moment où, en fait, fin août, début septembre, j'ai décidé de les garder... Je suis partie une semaine, 10 jours avec ma mère à Toulouse dans sa maison avec Nolan pour me couper un petit peu de tout ça. Et mon ventre a commencé à sortir à ce moment-là. Et j'avais l'impression tous les jours que, comme un peu les femmes qui font des dénis de grossesse, où du jour au lendemain, leur ventre apparaît. Et là, ça a été ça, quoi. C'est du jour au lendemain, j'avais l'impression que tous les jours, mes jeans n'allaient plus du tout. voilà, ça a été une très belle grossesse. Du coup, j'expliquais toujours à Nolan que il avait trois bébés. Après, que du coup, c'était trois petites sœurs. Donc, il se mettait toujours plein de trucs dans le body, parce qu'il disait que j'étais très grosse. voilà, j'ai pas pris beaucoup de poids, enfin, comme pour un seul bébé, en fait. J'ai pas beaucoup pris. Et donc, toujours dans ces histoires de confinement, en fait, il y a eu une annonce de confinement fin novembre. Et là, ma mère qui faisait des allers-retours entre son domicile et le mien, elle a décidé en fait mi-novembre, elle a décidé du coup de rester avec moi. Et parce que du coup, elle a assisté à toutes les échos. Je voulais pas y aller toute seule et en fait, je me voyais pas y aller avec quelqu'un d'autre que ma maman, quoi. Et début décembre, du coup, je fais une écho. Je sentais que ça allait pas. J'étais speed tout le temps, en fait. Je m'arrêtais jamais et je sentais que je commençais à fatiguer. Et du coup, ils m'ont hospitalisée, du coup, parce que je commençais à avoir un col qui se dilatait.
Donc là, t'es à combien de mois de grossesse ?
Là, du coup, je suis à 6 mois. Okay. Je suis à 6 mois de grossesse et là, du coup, ils m'hospitalisent.
Donc, tu restes combien de temps ?
J'ai essayé de négocier un petit retour à la maison pour expliquer à Nolan que, du coup, je rentrais à l'hôpital. Parce que ça veut dire qu'en fait, j'avais peur le côté du jour au lendemain. Mon père, il revient pas, mais mon père est mort. Mmh. Et là, moi, du jour au lendemain, maman, elle revient pas et elle est à l'hôpital.
Ah, oui,
donc, j'avais un petit peu peur de sa réaction. Et en fait, je reste hospitalisée donc, pendant 1 mois. J'arrive, je suis hospitalisée le 11 décembre et les filles naissent le 7 janvier. Pour une césarienne en urgence.
D'accord.
Et on fait énormément de visio avec Nolan. Je suis donc hospitalisée en GHR, les grossesses à haut risque, et j'ai pas le droit de visite parce que du coup Covid. Donc la seule personne qui peut me rendre visite, c'est ma mère puisque c'est elle qui m'accompagne. En gros, elle remplace le mari.
Ouais. C'est elle qui est prévue pour l'accouchement aussi.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Comme du coup, en fait, c'est elle qui assiste, elle peut venir donc à l'hôpital. Et j'ai un passe-droit pour que Nolan puisse me rendre visite une fois par semaine, à peu près 1 à 2 fois par semaine. Mais très vite, en fait, pour lui, c'est très long d'être à l'hôpital. Il ne faut pas qu'il fasse trop de bruit, parce que du coup, il ne faut pas que les autres mamans comprennent que j'ai un passe-droit.
Ah oui,
donc, voilà. Après, chaque cas est différent, donc les équipes se débrouillent. Mais voilà, après on fait des petits tours au parc, mais c'est le mois de décembre, il fait froid, donc pas évident non plus. Et pendant ce mois-là, en tout cas où je suis hospitalisée, Nolan est géré entre ma mère et ma belle-famille,
d'accord,
qui s'alterne un petit peu la garde avec en même temps la crèche que du coup Nolan avait à ce moment-là. Parce que je voulais vraiment qu'il continue la crèche dans l'idée de l'école aussi qui arrive. Et je voulais que il continue d'avoir une vie normale, malgré tout ce qui se passe.
Et alors, le jour J, comment ça se passe ?
Alors, en fait, pendant ce mois d'hospitalisation, je commence à avoir des protéines dans les urines. Donc, pas un taux où je suis en pré-éclampsie, mais pas top. Je fais une cholestase. Donc, c'est des démangeaisons. C'est rien de grave, mais ça peut faire des morts du nourrisson in utero. Donc, j'ai des monitos tous les jours, sauf que là, je pense à mes sages-femmes où en fait, les monitos de triplé, c'est pas 20 minutes, puisqu'en fait, il faut entendre les 3 cœurs ensemble pendant 20 minutes. Donc, des monitos peuvent durer 1h30. Donc, c'était des moments d'angoisse à chaque fois. Et en fait, vers la fin de ce mois d'hospitalisation, la courbe en fait, de croissance de Lina commence un peu à se stopper. Il y a énormément de différences entre la plus petite et la plus grosse, du coup. Et ils n'aiment pas trop ça dans les grossesses multiples. Donc, en fait, je fais un Doppler cérébral la veille, des petites, comme j'avais toutes les semaines. Et en fait, là, on me dit que, du coup, on va faire la césarienne le lendemain, en urgence, parce que du coup, Lina commence à être en détresse dans le sens où, en fait, elle commence à ralentir sa courbe de croissance. Donc, il vaut mieux pour elle d'être sortie et de grandir en dehors, quoi.
Pendant ce mois d'hospitalisation, toi, t'es un peu seule entre quatre murs. Est-ce que t'as un peu ressassé tout ce qui s'était passé avec le papa de tes enfants, ou au contraire, t'as réussi à...
Alors, pendant ce mois, du coup, j'ai uniquement ma mère qui vient, qui, pour le coup, vient quasiment tous les jours. Elle me ramène mon linge propre, elle me ramène des trucs à manger, parce que l'hôpital, c'est pas toujours méga fun. elle s'occupe énormément de moi, tout en gérant Nolan et la maison. Et voilà, je sais qu'elle a mis sa vie entre parenthèses pendant un moment pour moi. Et ça a été très fort, en tout cas pour nous deux, ce mois-là. Et pour moi, ça a été très difficile parce qu'il fallait que je me décide pour le choix des prénoms.
Oui.
Et ça, ça a été une torture. Un peu comme le choix de garder ou non les triplés. Le choix des prénoms, c'est pour moi l'aboutissement d'un couple pour son enfant.
Ouais.
De lui donner un prénom qu'il suivra toute sa vie. Et nous, en fait, on n'avait jamais évoqué un seul prénom de fille. Puisqu'en fait, pour Nolan, c'était notre première grossesse. Notre première enfin, c'était un parcours d'insémination. J'ai jamais fait de fausse couche, j'ai jamais eu d'échec. C'est soit ça a pris, soit du coup ça ne prenait pas du tout. Et en fait, on attendait toujours chaque étape avant de se projeter. Donc pour Nolan, on a attendu de connaître le sexe avant de parler de prénom. Et là, pour les filles, je me suis retrouvée seule à devoir choisir trois prénoms et trois prénoms de filles. L'échographe, à chaque fois, je disais, mais vous êtes sûre, il n'y a pas un garçon dans l'eau, histoire que ce soit un peu moins difficile. Et ça, ça a été très compliqué. Ma belle-sœur m'a offert l'officiel des prénoms.
Mmh.
Et je pense que j'ai passé des heures dessus parce que j'étais incapable de me décider seule.
Ouais. Donc tu t'es focus, en fait, sur ton lit d'hôpital pendant un mois à trouver ces trois prénoms.
Ouais, ça a été très compliqué. Et oui, ces trois prénoms, j'ai trouvé ça vraiment très difficile à trouver.
Mmh.
Au final, ils ont chacun leur histoire maintenant, ces prénoms, mais sur le coup, ça a été très difficile.
Et alors, la rencontre a été triplée.
Alors, l'accouchement se prépare. Césarienne, donc j'étais un petit peu stressée parce que je n'ai jamais été opérée de ma vie, donc je ne savais pas comment ça se passait. Et là, c'était le grand jour. Il y a un mélange d'émotions entre l'impatience de les retrouver et en même temps, je suis qu'à 7 mois de grossesse, donc je sais que ce sont des prématurés. On a passé le stade de la grande prématurité, mais voilà, je reste assez anxieuse.
Ta maman ne peut pas être là ?
Alors, ma maman devait être... Alors, elle ne pouvait pas être en salle de naissance, dans le bloc, parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop de personnel, puisque du coup, pour une équipe médicale, pour trois bébés, c'est tout triplé. Donc en fait, c'était énorme. Je ne me rends même pas compte du nombre de personnes qu'il y avait, mais ils ont été tellement... En fait, j'avais mes médecins. C'est-à-dire que j'avais mon échographe qui était là, qui m'a fait... Je l'ai supplié pour faire ma césarienne, elle était là. L'autre médecin qui me suivait aussi n'a pas touché les bébés, mais il était juste là en renfort à me regarder et à me dire, voilà, je suis avec vous. Il y avait des personnes que je ne connaissais pas, mais le staff, en fait, le plus présent était... C'était magique. Mais ma mère n'était pas à mes côtés. Et en fait, on commence la césarienne. Je n'ai même pas compris au début que l'opération avait commencé. C'est qu'en fait, quand j'ai entendu donc Lina, la première sortie, qui a pleuré, que je me suis dit, oh, bah, en fait, si, je suis déjà découpée, mais je n'ai rien senti. Du coup, Lina pleure, je la vois quelques secondes. Ensuite, c'est Noélia qui sort, pareil, que je vois quelques secondes. Et par contre, Amy, je ne la vois pas et elle part tout de suite, puisque du coup, elle n'est pas en état.
Ouais. C'était celle qui était un petit peu en souffrance.
Mais non, du coup, c'était Lina.
Ouais.
Mais Amy est en souffrance, en tout cas respiratoire, donc du coup, je ne l'ai pas vue. Elle a tout de suite été prise en charge. Et voilà, la seule chose que je sais, c'est que j'ai une cicatrice un peu plus grande que la normale, puisque du coup, elles sont trois et qu'elle a préféré avoir plus d'espace pour les sortir que de tout arracher. Et Amy vient me revoir quelques secondes après, en fait. Il la nettoie et tout, il vient de me la présenter et après...
Donc là, t'as trois bébés dans les bras ?
Non, du tout. Je les vois vraiment une fraction de seconde à côté de mon visage, en fait. Et là, elles partent. Et dans ma tête, elles partent avec ma mère. Sauf que là, il y a eu un couac. Et que du coup, ma mère ne les a pas vues. Ma mère a été congédiée dans ma chambre. Parce que du coup, il voulait que la première rencontre soit l'un des parents. Donc, moi.
D'accord.
Et il n'y a pas eu, en fait, le relais. Il y a eu un petit couac, là, pour le coup. où du coup ma mère n'a pas pu être auprès des filles, mais ça je l'ai su qu'après, puisqu'en fait moi après l'intervention je vais en salle de réveil, ça devait durer je crois 1h30, sauf qu'en fait je me fais opérer, enfin la césarienne est à midi, ouais, j'arrive à 11h30, à midi les filles sont sorties, et moi je remonte en chambre, il est passé 19h, puisqu'en fait j'ai eu une très mauvaise réaction à l'anesthésie, et... Du coup, j'étais pas en état de remonter, ma tension était pas bonne, donc en fait, je suis restée très longtemps en salle de réveil. D'accord. Et là, ma mère était toute seule dans ma chambre, donc je ne peux imaginer le stress qu'elle a dû avoir à ce moment-là.
Ouais.
Et quand je remonte en chambre, là, on me dit, en fait, il faut attendre que vous arriviez à avaler un truc, et tant que vous ne gardez ni liquide ni un seul yaourt, vous n'irez pas voir les filles, quoi. Sauf qu'en fait, j'ai accouché à midi, et elles sont toujours toutes seules. Ouais. Donc là, c'était très difficile. Bon, au final, je n'arrive toujours pas à garder quelque chose dans l'estomac. Je vomis du verre fluo. Et en fait, les infirmières qui sont là avec moi en GHR et tout acceptent du coup de m'emmener voir les filles. Il est 22h30. Du coup, là, je descends avec ma mère et on va voir les filles. Et là, donc elles ne sont pas dans la même chambre, puisque du coup, comme elles sont toutes sous oxygène, souvent dans les chambres d'hôpital, il n'y a que deux places. Souvent, c'est des jumeaux. Donc voilà, des triplés, il y en a deux fois par an, c'est à peu près les statistiques. Donc du coup, je commence par Amy, qui est toute seule, donc que du coup, j'avais quasiment pas vue. Il y a des tuyaux. Ça choque plus ma mère que moi, puisque du coup, je l'avais un petit peu déjà vécu avec Nolan. Après, voilà, elles sont scopées, elles sont sous oxygène. Mais elles sont si petites. C'est impressionnant. Enfin, en fait, Amy faisait 1,890 kg. Donc, elle était plus lourde que son frère qui faisait 1,810 kg. Donc, elle était bien. Ça reste des petits bébés, mais voilà. Noélia, du coup, elles sont chacune dans leur couveuse. Donc, après, on va voir Noélia et Lina. Et forcément, Lina qui fait 1,4 kg, c'est tout petit, quoi.
Oui.
Et Noélia, 1,660 kg. Donc, c'est des beaux poids pour des bébés à 32 semaines. Mmh. Mais oui, Lina, elle fait toute petite, quoi.
Et donc là, le programme, c'est quoi, en fait? Parce que j'imagine qu'elles doivent prendre du poids avant de pouvoir ressortir.
Alors, sur la durée d'hospitalisation, c'est vrai que là, ils ne se prononcent pas du tout.
Oui.
On me parle à peu près d'un mois d'hospitalisation, mais avec des prématurés, tout peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout. Là, c'est leurs premiers instants de vie, donc on reste un petit peu. Mais voilà, moi, je suis debout à 90 degrés, puisque je viens quand même d'avoir ma césarienne. Je tiens pas debout, je vomis dans la salle, j'ai baptisé l'évier. C'était un moment assez difficile, mais je voulais absolument rencontrer mes filles.
Oui.
On est dans le même bâtiment, mais moi, je suis 4 étages au-dessus, je suis pas près d'elles, donc c'était pas facile. Et je remonte en chambre. Et puis le lendemain, je ne peux pas y aller toute seule. Je tiens encore pas trop, trop debout. Puis il faut que je sois en fauteuil, etc. Et puis en fait, petit à petit, tout se met en route. Donc moi, je commence le tire-lait, parce que du coup, je veux que les filles soient allaitées. Je ne sais pas trop où je vais avec un allaitement de triplé, mais je veux en tout cas essayer de faire quelque chose.
On t'aide un petit peu sur place. On donne des recours.
Comme j'ai bien allaité Nolan et que ça s'est bien passé, je me mets tout de suite focus sur mon truc, quoi. Je tire mon lait toutes les 3 heures, même si je suis pas avec les filles la nuit, je me réveille et je tire mon lait.
Ouais.
Je vais le mettre dans le frigo pour elle, pour qu'elle soit sondée avec mon lait, etc. Donc je mets tout ça en place. Et au bout, en fait, de quelques jours de vie, Lina fait une entérocolite. C'est une nécrose, en fait, dans le système digestif, qui peut nécessiter une intervention, mais heureusement, elle n'a pas eu besoin d'une intervention. Et donc, elle se retrouve en arrêt alimentaire pendant 3 semaines. Ce qui fait que pendant 3 semaines, en fait, je n'ai, entre guillemets, que Lynn, Amy et Noélia à allaiter. Donc, c'est plus simple aussi pour moi à gérer. Donc, l'allaitement, au final, se met très bien en place pour elles deux.
Et elles sont toutes les trois dans le même service ou
Alors, elles sont toutes les trois en réa néonat,
d'accord.
Donc dans deux chambres différentes. Et voilà, elles sont sondées, petit à petit, elles commencent à ne plus avoir besoin d'oxygène. Donc tout ça se fait vraiment progressivement. Et puis voilà, on essaie de retirer l'oxygène, on le remet. On essaie de retirer la sonde, mais au final, elles ne prennent pas. Donc on remet la sonde, on essaie de les mettre au sein. Mais voilà, tout ça, ça se fait sous plusieurs jours, quoi. Donc c'est long, mais on finit par y arriver. Les 3 semaines, du coup, pour Lina passent, elle reprend une alimentation. Donc moi, en fait, pendant cette période-là, Donc, pour une césarienne, on peut rester hospitalisé au max 14 jours.
D'accord.
Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma cicatrice, ça s'est très mal passé, dans le sens où, en fait, comme j'ai énormément vomi le jour de la césarienne, j'ai des agrafes qui ont sauté. Donc, le lendemain, j'ai été recousue, donc sans anesthésie. C'était génial. Recousue juste aux extrémités, mais après, les autres agrafes ont pété, ils m'ont mis des straps. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Donc, au final, j'ai eu besoin de ces 14 jours. Et après, voilà, j'ai été méchée, etc. Enfin, ça a été un peu chaud pour ma cicatrice. Et du coup, au bout des 14 jours, je suis rentrée une petite semaine à la maison, où du coup, là, je pense qu'il n'y a que les mamans qui l'ont vécu qui peuvent comprendre le chagrin immense de laisser ses bébés à l'hôpital, et en même temps, le bonheur de retrouver Nolan, que j'avais pas vu depuis plus d'un, enfin, quasiment plus d'un mois, quoi. Donc, ce tiraillement était juste, mais horrible. Le côté là, psychologique, était vraiment difficile, parce que c'est vrai que ma mère, pour le coup, le comprenait pas. Elle me disait, mais tu vas retrouver Nolan à la maison, c'est cool. Ouais, mais je laisse mes bébés, quoi. Et en fait, je trouvais ça horrible de me dire que je laissais les filles, alors que je passais ma vie à leur faire du pot à pot. Et que déjà, quand j'étais dans le service, je devais me séparer entre chacune. Et c'est là où je me suis dit, mais comment je vais faire pour passer du temps avec chacun de mes enfants? Donc là, ça a été des étapes un petit peu difficiles moralement. Et en fait, quand je me suis fait réhospitaliser, du coup, en unité kangourou, pour apprendre en fait à nourrir les trois et à gérer les trois, j'ai malheureusement ramené le virus, donc le VRS, le virus de la bronchiolite, puisque du coup, Nolan était malade, comme il était à la crèche à ce moment-là. Mais voilà, il était juste enrhumé, sauf qu'en fait, j'étais porteur du virus, enfin porteuse du virus. Et que du coup, les filles ont été malades. Et en fait, au bout de quelques jours après ma réhospitalisation, en unité kangourou, elles sont redescendues en chacune leur tour. En fait, elles sont redescendues 4 étages plus bas en réa.
Ah là là, comment tu l'as vécu, ça?
Ça a été très douloureux, en fait, parce que y a la culpabilité de se dire que je suis rentrée, mais que j'ai ramené ça. Je m'en voulais, en fait. Je me suis dit, mais j'aurais pas dû ne pas mettre de masque avec Nolan. Mais en même temps, quand tu retrouves ton fils après un mois et demi, tu n'as qu'une envie, c'est de l'embrasser et tout, quoi. Donc, énormément de culpabilité, sachant qu'en plus, pour Lina, qui était déjà la plus fragile, ça a un peu mal tourné, dans le sens où, en fait, elle a fait une surinfection à la bronchiolite. Donc, elle a été de nouveau oxygénée, elle a été mise sous oxygène, sauf qu'en fait, un enfant qui est mis, enfin, même un adulte, c'est qu'en fait, après, pour le sevrage de l'oxygène, tout ça se fait progressivement. Donc, en fait, ça me décalait à chaque fois la date de sortie. Elle a été transfusée, donc ça a été émotionnellement très dur à supporter. Et puis là, du coup, on se renvoie au fait qu'on est le seul parent et toute seule à gérer.
Là, t'as commencé à réaliser un petit peu...
Quand Lina a fait son entérocolite, ensuite, quand il y a eu l'histoire de la bronchiolite, avec ça, en fait, je me suis dit, mince... En fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais le seul parent référent et qu'en fait, leur santé, j'allais devoir la gérer seule. S'il se passe quelque chose, je suis seule pour le gérer. Bien sûr, j'ai mes amis, j'ai ma famille, mais dans le foyer, je suis seule à gérer.
Et alors, comment t'as vécu cette prise de conscience ?
Avec beaucoup d'émotions, forcément, parce que c'était pas facile. Et en même temps, toujours avec le sourire, en fait. C'est que je me dis que c'est pas grave. On avance, on y va, la vie est belle et on fait tout pour qu'elle soit belle. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir cette force-là. Je veux faire en sorte que mes enfants voient une maman épanouie et pas une maman au bout du gouffre, alors qu'on pourrait tous l'être en fonction de nos différents parcours de vie. Mais voilà, je veux qu'ils aient l'image d'une maman forte et c'est un peu mon combat au quotidien, quoi.
Alors, en tout, vous serez resté combien de temps à l'hôpital avec les triplés ?
Les filles, du coup, sont restées 2 mois quasiment pleins. Ouais, 2 mois pleins à l'hôpital. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital, c'est une de mes belles-sœurs qui est venue me chercher. Ma mère était en Bretagne avec Nolan. Ça a été organisé comme ça pour qu'en fait, je puisse rentrer seule avec les triplés pendant quelques jours, pour déjà m'habituer à mon environnement sans avoir Nolan, entre guillemets, dans les pattes. Donc lui, il était en vacances chez mamie à la ferme. Et moi, je rentrais du coup avec les bébés et avec les filles.
Comment tu fais, là ? T'as pas mis le bras ?
Du coup, ma belle-sœur m'aide, en fait, vu qu'elle vient me chercher. Mais très vite, en fait, je veux être seule pour gérer. Donc, comme en fait en unité kangourou, j'ai appris voilà, à en allaiter deux, à en mettre une au biberon. Une fois que j'avais fini, je retirais mon lait. Donc en fait, c'était, voilà. Au début, c'était gérable comme ça. Donc je faisais un allaitement exclusif pour les trois. Et puis en fait, au fur et à mesure où elles ont, en fait, quand elles ont commencé à grandir, à avoir besoin de prendre plus de lait, là c'était compliqué pour moi. En fait, je voyais que quand je tirais mon lait, j'avais pas assez. Donc, avec l'entérocolite de Lina, on m'a conseillé un allaitement jusqu'à ses 6 mois minimum. Donc j'ai, voilà, j'ai préféré un petit peu mettre Lina au sein automatiquement. Ouais. Et du coup, j'ai passé Amy et Noélia en mixte. Donc je faisais un allaitement double tout le temps et l'autre du coup au biberon et j'alternais comme ça. Mais très vite, ça a commencé aussi à être compliqué parce qu'en fait, j'avais de la visite et dès qu'il fallait que j'allaite, je m'enfermais dans ma chambre parce qu'il fallait que je sois nue en fait pour pouvoir les allaiter. C'est pas comme un seul enfant où avec un t-shirt, on peut dézipper. Là, elles étaient encore toutes petites, elles tenaient pas leur tête. Donc les Lina, Noélia et Amy, je les allaitais à peu près 4 mois. D'accord. En exclusif. Wow, donc à peu près, ouais, 1 mois et demi, 2 mois après être à la maison. Et puis, mais ça a été l'allaitement double. J'ai trouvé ça canon. Pas, ouais. J'ai adoré. Et puis après, du coup, j'ai allaité du coup Lina exclusivement jusqu'à ses 9 mois à peu près. En fait, au bout de, ouais, c'est ça, 9 mois. Et après, sur 1 mois à peu près, j'ai commencé le sevrage. Mais mine de rien, la diversification aide aussi à faire le sevrage. Donc, ça s'est fait progressivement comme ça.
Et alors, tu te retrouves chez toi avec tes 3 filles. Panique ou zéro panique? Tu te dis, il faut y aller. De toute façon, il n'y a pas trop le choix.
Alors, forcément, il y a des instants de panique quand tout le monde pleure parce que tout le monde a faim. Quand c'est l'heure du bain, quand c'est l'heure des dodos, il faut que je monte les enfants. Alors, c'est vrai que maintenant, elles ont grandi. J'arrive à en descendre 2 ensemble et une toute seule, par exemple. Mais au tout début, c'était une après l'autre parce qu'elles tiennent pas leur tête. Et puis, j'étais pas rassurée. J'avais peur de tomber, d'en faire tomber. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait énormément de montées et de descentes d'escalier. J'avais pas besoin de salle de sport. Les fessiers étaient au top. Mais voilà, il y a des moments de panique parce que quand on est toute seule, voilà, c'est chaud. Maintenant, je savais que ma mère arrivait. Et du coup, ma mère est restée à peu près 2 mois après la sortie de l'hôpital des filles.
Ouais. Et comment s'est passée la rencontre avec Nolan et ses petites sœurs?
Cette rencontre, voilà, j'ai eu la chance de la... J'ai réussi à la filmer, en fait. Je me suis dit, c'est soit je la vis à fond et je la filme pas, soit je la filme et tant pis. Mais j'ai préféré la filmer parce que c'était tellement magique pour lui de découvrir ses 3 petites sœurs. J'ai trouvé ça... Enfin, voilà, rien que d'en parler, je pourrais en pleurer parce que c'était un moment plein d'émotions. Ouais. Et là, je me suis dit que c'était... que ça y est, on était enfin tous les 5, du coup.
Ouais.
Donc c'était le plus beau jour de ma vie. Cette rencontre, ça a été un moment magique, ouais.
J'imagine. Et alors, comment ça se passe depuis, pour toi, le quotidien? Est-ce que tu as des aides, d'ailleurs, financières? Guillaume parlait de tout l'aspect matériel qui l'inquiétait un petit peu quand vous avez su que vous attendiez des triplés. Comment tu gères, toi, maintenant, que tu es toute seule, en fait?
Alors, c'est vrai que Alors, par rapport à l'aide, en fait, quand j'ai été prise en charge à l'hôpital, on m'a parlé tout de suite des TISF. Donc, en fait, ils interviennent dans des familles, soit des familles pour... Enfin, bref, dans des familles de multiples ou des familles nombreuses, ou des parents dans le besoin. Et en fait, moi, donc, ils viennent 2 fois par semaine, donc depuis leurs 4 mois à peu près. Ils viennent 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine pendant 3h30. Donc ça me permet d'emmener Nolan à l'école sans déplacer tout le monde. Ça me permet d'aller récupérer mon drive. Donc voilà.
Il faut un peu de ménage.
Alors pas spécialement, mais ils m'aident plus en fait à gérer les enfants pendant que moi du coup je vaque à mes occupations. Après ils m'aident à plier une panière de linge. Voilà.
D'accord, ok.
Et donc par rapport à l'aide, c'est ce que j'ai. Sur le côté financier, quand Guillaume est décédé, du coup j'ai touché un capital décès comme dans toutes les prévoyances. Ce qui m'a permis d'acheter une voiture pour accueillir tous nos enfants. Puisque du coup, le Tiguan n'était plus possible. Il a fallu que je passe au modèle supérieur. Et du coup, le Vito, c'était un petit peu... c'était la solution. Donc ça m'a permis d'acheter ça. Après, c'est vrai que je ne suis pas du tout dépensière. Donc, tout ce que je peux mettre de côté, je mets de côté, et ça depuis toujours. Donc, en fait, j'ai de l'argent de côté. Et voilà, je m'en suis servie pour acheter la voiture, mais après tout le reste, je l'ai placé sur moi, les enfants, enfin voilà, ouais. je ne touche à rien parce que on ne sait pas de quoi demain est fait et je veux pas justement être dans le besoin. Ouais. Et puis il y a énormément eu aussi de solidarité et on m'a donné énormément de jouets et de vêtements.
D'accord.
Parce que mine de rien, les vêtements coûtent très cher.
Oui.
Et ça m'a permis du coup de pouvoir acheter du lait, des couches. De ne pas avoir de vêtements à acheter, ça m'a permis du coup de faire des économies et d'être moins ric-rac pour le reste. Oui. Et là, les filles, elles ont 16 mois. Je sais même pas si j'ai dépensé plus de 200 euros de vêtements. J'ai très peu acheté de vêtements pour les filles. J'ai eu tellement que ça m'a pas sauvé la vie, mais ça m'a permis en fait de continuer de vivre un peu normalement. Quoi. Ouais. Après, mes jeans, ça fait 10 ans que je les ai, j'en rachète que quand ils cassent, mes chaussures pareilles. Enfin voilà, ouais. Je fais vivre les enfants avant moi et moi je fais avec ce que j'ai et je suis très bien comme ça.
Parce que t'as pas du tout pu retourner travailler, j'imagine.
Du coup, j'ai pas repris le travail. Pour des triplés, le congé parental, c'est 5 ans et demi.
D'accord.
Donc je pars sur un congé parental de 3 ans, puisqu'en fait, aux 3 ans des enfants, j'ai une allocation en moins, comme pour tous les enfants, en fait, une allocation de 500 euros de moins. Et clairement, là, je vis avec à peu près 1800 euros et je ne peux pas vivre avec 500 euros de moins.
Ouais.
Donc pour le moment, je vais jusqu'aux 3 ans et après, on verra un petit peu où on va, quoi.
D'accord. Et alors aujourd'hui, où est-ce que tu en es, toi, en tant que maman, veuve?
En fait, je suis toujours tournée vers la vie et du coup vers nos enfants qui me poussent, ça c'est clair. J'ai cette chance-là de ne plus avoir mon mari, mais d'avoir nos enfants. Donc ça, c'est ma force et ça, c'est une certitude. Maintenant, par rapport au deuil à proprement dit, je pense que ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et je me suis tellement mis entre parenthèses et je vis tellement que pour mes enfants qu'en fait, je pense qu'il se fera au fur et à mesure de ma vie.
Ouais.
Pour les enfants, du coup, pour Nolan. Donc Nolan est rentré en septembre 2021 à l'école. J'ai tout de suite prévenu les équipes de tout ce qui s'était passé, de ce que Nolan est au courant. C'est-à-dire qu'en fait, il a toujours le même discours depuis le décès de Guillaume. Donc je voulais que les équipes soient au courant. Et en fait, en revenant des vacances de la Toussaint, la maîtresse m'a signalé que Nolan parlait beaucoup de son papa, parlait beaucoup de Guillaume. En fait, au début de l'année scolaire, c'était beaucoup aux adultes.
D'accord.
Il peut très bien dire « Bonjour, moi, tu sais, mon papa, il est mort. » Pour lui, en fait, c'est son schéma. Et en fait, au fur et à mesure de l'école, il a commencé à en parler beaucoup aux copains.
D'accord.
J'ai même été une fois interceptée parce que du coup, il y a un papa qui est venu me voir en me disant « Sinon, votre fils, il raconte à ma fille que son père, il est mort. » Bah oui. Alors je comprends que ça puisse heurter, puisqu'en fait on n'a pas envie à 3 ans d'expliquer la mort à nos enfants, mais nous malheureusement ça fait partie de notre vie. Et en fait à la Toussaint, elle m'a alertée sur le fait qu'il en parlait de plus en plus, donc j'ai appelé la dame qui m'avait gentiment aidée en août 2020 et que sur les mots à employer et tout, et j'ai été la voir, j'ai demandé
la pédopsie.
J'ai demandé à la rencontrer, enfin en tout cas pour Nolan. Et je me suis dit, il va jamais aller, à 3 ans, il va jamais suivre quelqu'un qu'il connaît pas et tout. Et en fait, elle l'a tout de suite captivée. Moi, elle m'a fait comprendre d'attendre dans la salle d'attente. Elle est partie avec lui. Et là, ils ont papoté pendant une demi-heure.
Ouais.
Et j'ai été très fière de lui déjà. Parce qu'il est épatant, en fait. C'est qu'il a très bien compris les choses. Et il en parle aujourd'hui en toute simplicité. C'est ce que je voulais. Je voulais pas de tabou. Je voulais pas qu'il se fasse toute une imagination sur ça. Et la pédopsie m'a dit que pour le coup, il était très que c'était normal en fait, qu'il fallait pas que ça alerte la maîtresse, dans le sens où en fait, quand ils font des jeux de rôle à l'école avec une maison de poupées, une maman et un papa, Nolan il dit, moi mon papa il est mort. Donc en fait, ça peut choquer, mais sauf qu'en fait non, c'est normal pour lui. Et la pédopsie, c'est ce qu'elle m'a dit. Il n'est pas du tout désorienté ou quoi. C'est vraiment qu'il est totalement et pleinement conscient des choses et de ce qui s'est passé.
Ouais.
Donc, il va très bien.
Il pose les bons mots, finalement.
C'est ça.
Comme tu lui as transmis au moment...
C'est ça. Il pose les bons mots et il a pleinement conscience des choses. Et c'est même rigolo parce qu'en fait, je sais qu'il a quasiment plus de souvenirs. C'est les photos ou les vidéos que des fois on peut regarder ensemble, où là il va se souvenir de certaines choses, mais ça me fait rire parce que du coup il est dans le partage avec ses sœurs. C'est que une fois une des filles a sorti un harmonica et de lui-même il lui a dit, tu sais, moi une fois mon papa il me portait avec l'harmonica, il faisait ça dans la maison et tout. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit qu'en fait, bon, c'est des vidéos qui font vivre le souvenir, mais j'ai trouvé ça super qu'il le partage avec ses sœurs.
Ouais.
Et c'est ce que je lui dis toujours, que les petites sœurs, elles vont grandir et qu'on va leur expliquer aux filles que leur papa, qu'il est mort, mais qu'il sera toujours dans notre cœur et qu'on l'aime fort. Et voilà, des mots sacrés, mais des mots que tout le monde a besoin d'entendre pour continuer de le faire vivre en fait avec nous, quoi.
Bien sûr. Et la pédopsie t'a dit à peu près à quel moment il faudrait en parler aux filles qu'elles l'ont vécu in utero. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose aussi
C'est vrai que j'ai pas moi réussi à trop parler aux filles quand elles étaient du coup dans mon ventre. J'avais beaucoup de difficultés par rapport à ça. Après, je trouve que c'est très difficile en fait d'expliquer à un nouveau-né, tu sais, ton papa il est mort. Enfin, du coup, c'est difficile. Donc plus elles grandissent, plus on en parle. C'est vrai que par exemple, on a une photo en haut de l'escalier de nous deux. Et c'est vrai que des fois, quand elle le fixe, je lui dis, tu sais, ton papa, il est au paradis. Mais voilà, ça va être juste des petits mots comme ça. Et puis Nolan qui, des fois, va en parler de lui-même. Quoi. Donc on adapte. Mais je ne sais pas, en tout cas, trop à quel moment. Et comme m'a dit la pédopsie, même pour Nolan, il est possible qu'à un moment donné, il ait besoin de refaire un check, entre guillemets, pour voir où il en est. Quoi. Mais en tout cas, tout le monde est conscient de tout maintenant. À nous de bien orienter le reste de la vie. Quoi.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Eh bien, je me suis découverte maman de famille nombreuse. C'était pas du tout prévu au programme. Mais clairement, aujourd'hui, en fait, c'est sûr qu'il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où les filles, elles sont malades, où elles sont fatiguées. J'attends qu'une chose, c'est que tout le monde dorme. Faut pas se leurrer, je suis pas la mère parfaite où tout va toujours bien. Mais voilà, en fait, je le prends avec toujours beaucoup de sérénité, de bienveillance et même des fois des situations qui vont être agaçantes ou stressantes ou nerveusement, en fait, en tant que maman. Voilà, je me mets un peu dans ma bulle et je veux pas en rajouter aux enfants qui, malheureusement, en fait, j'ai toujours ce côté où je veux pas qu'elles en pâtissent, enfin, qu'ils en pâtissent, que je sois seule. Donc, je temporise toujours, je rassure, je parle beaucoup pour éviter de devenir aussi un petit peu folle. Mais voilà, je les rassure beaucoup comme ça. Quand elles étaient petites, c'est vrai que dès que je montais à l'étage, en fait, j'étais toujours en train de leur parler parce que je les imaginais au sol en train de se dire « Mais attends, elle était là, elle est repartie, où est-ce qu'elle vient ? Elle nous abandonne. » Donc je me suis vraiment découverte maman et aujourd'hui, je changerai pour rien au monde. Et quand je les vois toutes les trois et du coup tous les quatre ensemble, je me dis que j'ai pris la plus belle décision de ma vie en les gardant toutes les trois et en formant cette famille.
Ouais. Et alors maintenant, famille monoparentale, de quoi toi t'aurais besoin en tant que veuve, mère de famille solo, au niveau de l'État ou de la société ? Est-ce que t'as vu un autre regard porter un peu sur toi ou...
J'ai pas... j'ai cette image un peu... c'est pas que je veux pas faire pitié, mais je veux pas qu'on me plaigne ou quoi. C'est pas du tout... Je veux toujours en fait faire en sorte d'y arriver, donc j'essaie de faire en sorte de jamais être en galère, donc je me débrouille. Et puis j'ai quand même beaucoup d'aide de ma famille, de mes amis, tout le monde est très présent, même si au final j'ai tendance moi à me renfermer parce que j'ai envie de gérer seule mes enfants. Je veux pas, en fait j'ai toujours été dans cette optique-là, c'est que je ne veux pas devoir compter sur quelqu'un pour m'en sortir, donc je veux me débrouiller toute seule et je fais le nécessaire. Après... Avec le décès de Guillaume, j'ai aussi eu mon crédit pour la maison, par exemple, que je n'ai plus. Et heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas vivre ici.
Ouais.
Et mine de rien, j'ai que les charges de la maison à payer et les repas. Puisque du coup, pour les vêtements, j'ai tout. Et mes grosses dépenses aujourd'hui, c'est les frais de la maison, l'eau, l'électricité, tout ça. Et l'alimentation pour nous, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Une maman sur tous les fronts, quoi. Une vie à 100 à l'heure tout le temps. Il y a cette question-là où je me dis peut-être un jour, j'aurai l'envie de déménager et d'aller un petit peu au vert pour avoir un environnement un peu plus calme.
Ouais.
Mais j'aime ma vie ici.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ? L'endroit où t'aimes bien aller avec tes enfants ?
Bah, Je suis très casanière, donc je ne vais pas inventer grand-chose, mais j'aime être dans mon confort et dans ma maison, dans mon jardin, voilà, j'aime être chez moi.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, rien que pour moi, les filles, en septembre, commencent la crèche pour 2 jours par semaine, donc le mercredi et le jeudi. Donc, en projet de famille, en fait, c'est vraiment consacrer du temps à Nolan, qui depuis 2 ans, mine de rien, a lui aussi vécu pas mal de choses. Donc, le mercredi, ça va être sa journée où j'espère trouver plein de trucs à faire. Mmh. Et j'aimerais reprendre ma grande passion qui est l'équitation. Donc, si j'arrive à reprendre 1 à 2 fois par semaine, ce serait top. Les filles grandissent et c'est déjà plus facile pour moi l'idée de les laisser à garder. Il fallait que je coupe un petit peu le cordon et que je laisse un peu. Mais je vois qu'elles vont bien, donc c'est plus facile maintenant. Mais j'aimerais en fait réussir à prendre sur moi et à faire des choses parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple maintenant. Et tout va bien, donc en fait, je peux m'octroyer des moments pour moi et faire des choses en dehors de la maison, mais il faut passer le cap.
Merci beaucoup, Laetitia.
Merci beaucoup de m'avoir écoutée.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.